Kaufmännische Berufsmatura 2019, Französisch Hörverstehen. An alle Aufsichtspersonen, verteilen Sie jetzt die Frageblätter zum Prüfungsteil Hörverstehen. Sie haben dafür 2 Minuten Zeit. Die Kandidatinnen und Kandidaten schreiben ihren Namen, Vornamen und so weiter aufs Deckblatt. Achtung! Erst wenn auf dem Tonträger Französisch gesprochen wird, dürfen die Fragen auf den Aufgabenblättern gelesen werden. Maturité professionnelle 2019, compréhension auditive. Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'examen de compréhension auditive. Monologue. Vous allez entendre l'enregistrement en 2 parties. D'abord la première partie du monologue, 2 fois. Et ensuite, la 2e partie du monologue, que vous allez également entendre 2 fois. Vous avez 50 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A1. Première écoute de la première partie du monologue.
Je m'appelle Sophie et depuis 2006, mon mari Bruno, nos 3 enfants et moi, nous accueillons régulièrement chez nous des enfants étrangers. Ce sont de jeunes malades venus quelques mois en France pour se faire soigner grâce à une association humanitaire qui se charge de faire opérer des enfants qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays. Pour le temps de leur séjour, l'association fait appel à des bénévoles qui accueillent les jeunes patients chez eux, leur offrant ainsi un entourage précieux au moment où ils s'apprêtent à vivre une situation difficile, subir une opération lourde à des milliers de kilomètres de leurs parents. C'est après un reportage à la télévision que nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure. Nous nous sommes dit que nous avions de la chance d'avoir 3 enfants en bonne santé, et aussi de pouvoir profiter d'un bon système de santé publique si quelque chose leur arrivait. Nous avions envie de nous rendre utiles. Alors, nous avons demandé à nos enfants s'ils étaient d'accord. Ils ont tous dit oui immédiatement. Ensuite, tout s'est fait très vite. À peine 2 mois après le début des démarches, nous avons accueilli notre premier enfant, Ahmed. Quand nous allons chercher un enfant à l'aéroport, nous n'avons sur lui que quelques petites informations. En plus de son nom et de son âge, on nous informe sur son état de santé, sa religion, s'il parle français, s'il a des frères et sœurs, ce dont il a peur ou ce qu'il aime faire. Même si je m'étonne toujours des capacités d'adaptation de ces enfants, je reconnais que pour certains, la tâche s'avère plus délicate. La plus grosse difficulté ? La barrière de la langue et les différences de culture.
Vous avez 50 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de l'exercice A1. Deuxième écoute de la première partie du monologue.
Je m'appelle Sophie et depuis 2006, mon mari Bruno, nos 3 enfants et moi, nous accueillons régulièrement chez nous des enfants étrangers. Ce sont de jeunes malades venus quelques mois en France pour se faire soigner grâce à une association humanitaire qui se charge de faire opérer des enfants qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays. Pour le temps de leur séjour, l'association fait appel à des bénévoles qui accueillent les jeunes patients chez eux, leur offrant ainsi un entourage précieux au moment où ils s'apprêtent à vivre une situation difficile, subir une opération lourde à des milliers de kilomètres de leurs parents. C'est après un reportage à la télévision que nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure. Nous nous sommes dit que nous avions de la chance d'avoir 3 enfants en bonne santé, et aussi de pouvoir profiter d'un bon système de santé publique si quelque chose leur arrivait. Nous avions envie de nous rendre utiles, alors nous avons demandé à nos enfants s'ils étaient d'accord. Ils ont tous dit oui immédiatement. Ensuite, tout s'est fait très vite. À peine 2 mois après le début des démarches, nous avons accueilli notre premier enfant, Ahmed. Quand nous allons chercher un enfant à l'aéroport, nous n'avons sur lui que quelques petites informations. En plus de son nom et de son âge, on nous informe sur son état de santé, sa religion, s'il parle français, s'il a des frères et sœurs, ce dont il a peur ou ce qu'il aime faire. Même si je m'étonne toujours des capacités d'adaptation de ces enfants, je reconnais que pour certains, la tâche s'avère plus délicate. La plus grosse difficulté ? La barrière de la langue et les différences de culture.
Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A1. Nous passons maintenant à la deuxième partie du monologue. Vous avez 50 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A2. première écoute de la deuxième partie du monologue.
Au quotidien, je fais toujours comme si cet enfant était l'un des miens. Nous vivons donc avec eux une vie de famille comme les autres, à une différence près, les câlins et la tendresse. Nous sommes très proches de nos propres enfants, bien entendu. Mais avec nos petits hôtes, ce n'est pas évident. Je ne fais jamais le premier pas. Je préfère d'abord jouer avec l'enfant et c'est lui qui choisit de se rapprocher de moi ou non. C'est mieux ainsi parce qu'avec les garçons, c'est parfois plus compliqué. Dans leur pays, l'attitude vis-à-vis des femmes n'est pas toujours la même qu'ici. D'ailleurs, pas question d'être une seconde maman. Nous leur demandons de nous appeler par nos prénoms et je leur parle très souvent de leurs parents. Quand c'est trop dur, nous leur téléphonons. Mais certains enfants ne veulent pas, par peur de pleurer ou d'entendre leur mère pleurer. Pour leur départ, je leur prépare un petit carnet avec des photos d'ici, y compris certaines prises peu après l'opération, pour qu'ils gardent une trace de leur séjour. Les départs, forcément, sont les moments les plus difficiles pour la famille. Dès que le départ approche, nous le thématisons et nous en parlons tous ensemble. Quand un enfant nous quitte, nous avons besoin d'une période d'adaptation. Nous préférons accueillir seulement un enfant par an, afin de prendre le temps de revivre à cinq, de retrouver notre vie de famille et de moins penser à l'enfant qui est retourné dans son pays. Et pour ressentir à nouveau également l'envie de nous relancer dans l'aventure. Nous sommes conscients de la portée de notre engagement, mais pour nous, ces enfants sont aussi une chance et une richesse pour la famille. Grâce à eux, nos enfants ont appris que tout le monde ne vit pas comme nous. Ils nous ont aussi montré que l'on peut être très heureux en ayant moins. J'espère que ces expériences rendront nos enfants plus ouverts aux autres et plus généreux aussi.
Vous avez 50 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de l'exercice A2. Deuxième écoute de la deuxième partie du monologue.
Au quotidien, je fais toujours comme si cet enfant était l'un des miens. Nous vivons donc avec eux une vie de famille comme les autres, à une différence près, les câlins et la tendresse. Nous sommes très proches de nos propres enfants, bien entendu. Mais avec nos petits hôtes, ce n'est pas évident. Je ne fais jamais le premier pas. Je préfère d'abord jouer avec l'enfant et c'est lui qui choisit de se rapprocher de moi ou non. C'est mieux ainsi parce qu'avec les garçons, c'est parfois plus compliqué. Dans leur pays, l'attitude vis-à-vis des femmes n'est pas toujours la même qu'ici. D'ailleurs, pas question d'être une seconde maman. Nous leur demandons de nous appeler par nos prénoms et je leur parle très souvent de leurs parents. Quand c'est trop dur, nous leur téléphonons. Mais certains enfants ne veulent pas, par peur de pleurer ou d'entendre leur mère pleurer. Pour leur départ, je leur prépare un petit carnet avec des photos d'ici, y compris certaines prises peu après l'opération, pour qu'ils gardent une trace de leur séjour. Les départs, forcément, sont les moments les plus difficiles pour la famille. Dès que le départ approche, nous le thématisons et nous en parlons tous ensemble. Quand un enfant nous quitte, nous avons besoin d'une période d'adaptation. Nous préférons accueillir seulement un enfant par an, afin de prendre le temps de revivre à cinq, de retrouver notre vie de famille et de moins penser à l'enfant qui est retourné dans son pays. Et pour ressentir à nouveau également l'envie de nous relancer dans l'aventure. Nous sommes conscients de la portée de notre engagement, mais pour nous, ces enfants sont aussi une chance et une richesse pour la famille. Grâce à eux, nos enfants ont appris que tout le monde ne vit pas comme nous. Ils nous ont aussi montré que l'on peut être très heureux en ayant moins. J'espère que ces expériences rendront nos enfants plus ouverts aux autres et plus généreux aussi.
Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A2. Nous passons maintenant au dialogue. Vous entendrez l'enregistrement en deux parties. D'abord, la première partie du dialogue, deux fois, et ensuite, la deuxième partie du dialogue que vous allez également entendre deux fois. Vous avez 50 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A3. Première écoute de la première partie du dialogue.
Joël Dicker, né en 1985, a des origines russes et françaises. Il a toujours su qu'il voulait devenir écrivain, mais il a d'abord fait des études de droit et après, il a travaillé à temps partiel pour l'Assemblée constituante genevoise. Mais Dicker utilisait chaque minute de libre pour écrire la vérité sur l'affaire Harry Kéber, livre qu'il a rendu célèbre du jour au lendemain en 2012. Le livre a été traduit en 40 langues et a reçu plusieurs prix littéraires. En 2016, Dicker a publié le livre des Baltimore et en mars 2018, un policier intitulé « La disparition de Stéphanie Meller ». Bonjour, Monsieur Dicker. Vous vivez et travaillez à Genève, mais vous êtes connu dans le monde entier. Est-ce que les gens vous arrêtent souvent dans la rue?
En Suisse, les gens sont plus réservés vis-à-vis des célébrités, même si je ne me considère pas comme tel. Et lorsqu'on m'aborde, c'est plus comme le ferait une connaissance. Bien sûr, les gens me connaissent en partie à cause de mon visage, mais surtout à cause de mon livre.
Êtes-vous présent sur les réseaux sociaux?
Oui, bien sûr. Tout le monde les utilise. En plus, les écrivains sont obligés d'utiliser ces canaux pour que le livre gagne en popularité auprès du public.
Visiblement, ça marche. Votre roman, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, a passionné des gens du monde entier. Le livre s'est vendu à des millions d'exemplaires.
Oui, parfois, je me demande moi-même comment j'ai réussi une chose pareille. L'année dernière, j'ai été en Colombie. Je pensais que là-bas, personne ne me connaissait. Mais c'est fou, à Bogota, il y avait au moins 400 personnes pour la lecture publique. Et à Carthagène, elles étaient un millier.
En Suisse alémanique, par contre, vous êtes assez peu connu. À quoi attribuez-vous cela?
Vous avez raison. À Zurich, moins de 10 personnes s'étaient déplacées pour la présentation du livre dans la librairie Aurel Füssli. J'en suis totalement responsable. Je ne me suis pas assez soucié de la Suisse alémanique. Pour être honnête, j'ai honte de ne pas parler allemand. J'étais vraiment mauvais à l'école. J'ai souvent séché les cours et je ne faisais jamais mes devoirs. Vous avez 50 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de l'exercice A3. Deuxième écoute de la première partie du dialogue.
Joël Dicker, né en 1985, a des origines russes et françaises. Il a toujours su qu'il voulait devenir écrivain, mais il a d'abord fait des études de droit et après, il a travaillé à temps partiel pour l'Assemblée constituante genevoise. Mais Dicker utilisait chaque minute de libre pour écrire la vérité sur l'affaire Harry Kéber, livre qu'il a rendu célèbre du jour au lendemain en 2012. Le livre a été traduit en 40 langues et a reçu plusieurs prix littéraires. En 2016, Dicker a publié le livre des Baltimore et en mars 2018, un policier intitulé « La disparition de Stephanie Miller ». Bonjour, Monsieur Dicker. Vous vivez et travaillez à Genève, mais vous êtes connu dans le monde entier. Est-ce que les gens vous arrêtent souvent dans la rue?
En Suisse, les gens sont plus réservés vis-à-vis des célébrités, même si je ne me considère pas comme tel. Et lorsqu'on m'aborde, c'est plus comme le ferait une connaissance. Bien sûr, les gens me connaissent en partie à cause de mon visage, mais surtout à cause de mon livre.
Êtes-vous présent sur les réseaux sociaux?
Oui, bien sûr. Tout le monde les utilise. En plus, les écrivains sont obligés d'utiliser ces canaux pour que le livre gagne en popularité auprès du public.
Visiblement, ça marche. Votre roman, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, a passionné des gens du monde entier. Le livre s'est vendu à des millions d'exemplaires.
Oui, parfois, je me demande moi-même comment j'ai réussi une chose pareille. L'année dernière, j'ai été en Colombie. Je pensais que là-bas, personne ne me connaissait. Mais c'est fou, à Bogota, il y avait au moins 400 personnes pour la lecture publique. Et à Carthagène, elles étaient un millier.
En Suisse alémanique, par contre, vous êtes assez peu connu. À quoi attribuez-vous cela?
Vous avez raison. À Zurich, moins de 10 personnes s'étaient déplacées pour la présentation du livre dans la librairie Aurel Füssli. J'en suis totalement responsable. Je ne me suis pas assez soucié de la Suisse alémanique. Pour être honnête, j'ai honte de ne pas parler allemand. J'étais vraiment mauvais à l'école. J'ai souvent séché les cours et je ne faisais jamais mes devoirs. Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A3. Nous passons maintenant à la deuxième partie du dialogue. Vous avez 50 secondes pour lire les questions et les affirmations de l'exercice A4. Première écoute de la deuxième partie du dialogue.
Avez-vous toujours voulu être écrivain?
Oui, du plus loin que je me souvienne. J'ai toujours écrit des histoires. J'ai même créé une revue à l'âge de 10 ans. J'aime être créatif. Écrire, c'est pour moi comme plonger dans un autre monde. Et j'aime embarquer les gens dans mon voyage. Mais l'écriture nécessite aussi une certaine pratique. D'ailleurs, sur les 12 livres que j'ai écrits, seuls 5 ont été publiés.
Comment a évolué votre activité d'écrivain?
Chaque ouvrage me fait avancer. Avant que l'écriture ne devienne mon activité principale, je devais trouver du temps pour pouvoir écrire. C'était pour moi une sorte de confirmation, un signe de mon désir profond d'être écrivain. Une fois le succès arrivé, j'ai eu subitement tout le temps que je voulais et cela m'a causé des problèmes, car c'était une toute nouvelle expérience. Je ne devais plus lutter pour vivre mon rêve. Vous savez, les Suisses sont différents du reste du monde. Nous travaillons dur et nous nous concentrons sur nos objectifs.
Comment avez-vous géré le stress après le succès ?
Franchement, je ne me suis jamais senti sous tension. Si j'écris un livre, c'est parce que j'en ai envie, pas parce que j'y suis contraint. J'écris sans plan. Cela m'évite d'être bloqué. Et l'inspiration, je la trouve un peu partout, dans ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends. Je nourris constamment mon esprit. Par contre, je ne veux pas être conditionné, même si cela est parfois pratique. Un exemple, aujourd'hui, nous utilisons Google Maps pour trouver l'itinéraire le plus rapide entre deux endroits. Le GPS est une bonne invention, mais il nous empêche de nous perdre et donc de découvrir quelque chose que nous n'aurions pas vu sinon. Moi, je veux être libre quand j'écris. Je ne veux pas passer à côté de l'intrigue. Je ne sais pas où je vais et du coup, j'ai sûrement besoin de plus de temps et de papier, mais à la fin, j'en ai appris davantage et je sais avec certitude quelles sont les idées à retenir et quels événements enchaîner pour amener le dénouement. Vous avez 50 secondes pour répondre aux questions et aux affirmations de l'exercice A4. Deuxième écoute de la deuxième partie du dialogue.
Avez-vous toujours voulu être écrivain ?
Oui, du plus loin que je me souvienne. J'ai toujours écrit des histoires. J'ai même créé une revue à l'âge de 10 ans. J'aime être créatif. Écrire, c'est pour moi comme plonger dans un autre monde. Et j'aime embarquer les gens dans mon voyage. Mais l'écriture nécessite aussi une certaine pratique. D'ailleurs, sur les 12 livres que j'ai écrits, seuls 5 ont été publiés.
Comment a évolué votre activité d'écrivain ?
Chaque ouvrage me fait avancer. Avant que l'écriture ne devienne mon activité principale, je devais trouver du temps pour pouvoir écrire. C'était pour moi une sorte de confirmation, un signe de mon désir profond d'être écrivain. Une fois le succès arrivé, j'ai eu subitement tout le temps que je voulais et cela m'a causé des problèmes, car c'était une toute nouvelle expérience. Je ne devais plus lutter pour vivre mon rêve. Vous savez, les Suisses sont différents du reste du monde. Nous travaillons dur et nous nous concentrons sur nos objectifs.
Comment avez-vous géré le stress après le succès ?
Franchement, je ne me suis jamais senti sous tension. Si j'écris un livre, c'est parce que j'en ai envie, pas parce que j'y suis contraint. J'écris sans plan. Cela m'évite d'être bloqué. Et l'inspiration, je la trouve un peu partout, dans ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends. Je nourris constamment mon esprit. Par contre, je ne veux pas être conditionné, même si cela est parfois pratique. Un exemple, aujourd'hui, nous utilisons Google Maps pour trouver l'itinéraire le plus rapide entre deux endroits. Le GPS est une bonne invention, mais il nous empêche de nous perdre et donc de découvrir quelque chose que nous n'aurions pas vu sinon. Moi, je veux être libre quand j'écris. Je ne veux pas passer à côté de l'intrigue. Je ne sais pas où je vais et du coup, j'ai sûrement besoin de plus de temps et de papier, mais à la fin, j'en ai appris davantage et je sais avec certitude quelles sont les idées à retenir et quels événements enchaîner pour amener le dénouement. Vous avez 50 secondes pour compléter vos réponses de l'exercice A4. Fin de l'examen de compréhension auditive.